de la connaissance. La sémiotique dans la cuisine du sens par Jacques Munier. Aujourd'hui, le temps des libations avec Jean-François Bordron. Lorsqu'il évoque la question de la perception, le sémioticien plonge dans la dimension organique de la langue. Étudiant un corpus de textes de dégustation de vin, tout comme Barthes était parti des magazines de mode pour décrire son système de la mode, Jean-François Bordron a tenté de dégager la structure narrative propre à une dégustation organisée autour des trois moments de l'attaque, du développement et de la finale. Pour comprendre ce qui se passe entre perception et énonciation dans l'expérience gustative. Jean-François Bordron.
Il s'agit d'abord de considérer l'effet de perception dans une perspective qui soit une perspective sémiotique, c'est-à-dire de comprendre la perception comme une production de sens. Et essayer de décrire ce qui peut bien se passer dans un fait comme le fait de goûter quelque chose ou le fait de déguster, etc. Et alors en effet, pour essayer de comprendre cela, que faire ? Alors on peut évidemment déguster, mais on peut aussi prendre la dégustation déjà écrite, déjà en quelque sorte racontée par des dégustateurs, qui sont des dégustateurs professionnels, qui pour cette raison dispose d'un lexique relativement convenu, possède aussi une rhétorique, etc., et possède aussi, une certaine façon de s'adresser à un public, de créer autour de la dégustation une intersubjectivité. Alors, nous accédons donc au goût, nous accédons à la perception par, le biais d'un langage, mais ce n'est pas nécessairement un biais, c'est une, quelque sorte une nécessité.
Alors, la dégustation se déroule dans le temps. Il y a donc, en quelque sorte, une structure narrative qui est, en quelque sorte, découpée en trois grands moments. Le moment de l'attaque, celui de l'évolution en bouche, le développement et la finale.
Oui, alors je crois que ce qu'il faut considérer d'abord, c'est qu'une perception comme la perception gustative, c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre entre un organisme et puis quelque chose qui vient de son milieu, qui est préparé, qui bien entendu est une élaboration, a subi une élaboration technique et puis aussi une élaboration culturelle puisqu'il y a des traditions. Et cette rencontre produit quelque chose. Et ce quelque chose, bien sûr, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler l'apparaître de la chose, la façon dont ça apparaît. Quelque chose apparaît. Ce quelque chose apparaît en fonction de aussi bien de l'organisme que de ce qu'est l'organisme, que ce qu'est la composition chimique, disons, par exemple du vin, puisqu'il s'agit du vin. Alors, cette rencontre, elle n'est pas évidemment instantanée, elle se fait dans le temps, et une des premières constatations qu'on peut faire, c'est que il y a une certaine façon d'organiser ce temps. Il y a trois moments qui semblent être des moments privilégiés, qui se succèdent, que on appelle traditionnellement l'attaque, si vous voulez, le déploiement, et puis la finale. Et chacun de ces moments, ça a été une sorte de découverte, en tout cas pour moi, ont un lexique assez particulier, ont des rythmes assez particuliers, de telle sorte que s'il ne s'agit pas exactement d'un récit, il s'agit quand même d'une certaine forme, d'une certaine organisation, que l'on peut tout à fait comparer d'ailleurs à la façon dont un son, par exemple, se déploie dans le temps et... Beaucoup de descriptions qui ont été faites, par exemple par Schaeffer, du son musical ressemblent énormément à la façon dont on peut décrire une perception gustative. C'est-à-dire qu'il y a effectivement trois moments. Alors, à quoi correspondent ces trois moments? On peut les comparer à beaucoup de choses. Mais on peut en particulier les comparer, bien entendu, à une organisation aspectuelle, comme dans le langage. C'est-à-dire qu'il y a un moment de commencement, il y a un moment de constitution de quelque chose dans une durée, et puis il y a une chute, il y a une fin, il y a une frontière en quelque sorte qui s'institue, et c'est à ce moment-là que intervient cette chose essentielle, c'est-à-dire on sort de la perception proprement dite pour porter un jugement, par exemple, pour dire voilà, c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est, etc., c'est pour porter des comparaisons, etc. Donc il y a une logique d'ensemble. il y a une logique et la chose ne se fait pas d'une façon aléatoire. Alors il est intéressant de voir si, de rechercher en tout cas, si dans d'autres phénomènes de perception, on peut retrouver le même ordre de logique, c'est l'hypothèse qu'on peut faire. Non pas exactement de la même façon, bien sûr, mais une façon comparable. Est-ce qu'il y aurait en général des formes quasi grammaticales, si l'on veut, pour parler en termes langagiers, qui organiseraient la façon que nous avons de percevoir dans le temps?
Alors, il est vrai qu'il y a une grande similitude entre les différentes descriptions œnologiques. On a recours au même vocabulaire, on a recours à cette structure narrative en trois temps, c'est presque une figure de style, et du coup l'ensemble peut bien apparaître comme une rhétorique.
C'est une rhétorique en ce sens que, d'abord, comme tout, il s'agit bien sûr d'un art de persuader, puisque la plupart des textes que nous pouvons trouver sont à visée persuasive, et donc il s'agit d'une rhétorique. D'autre part, il s'agit aussi de séduire, et puis il s'agit aussi de faire une certaine mise en scène. Il y a beaucoup d'emphase, il y a beaucoup de choses de ce genre. Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément l'aspect le plus extraordinaire, c'est quelque chose qu'on rencontre un peu partout. Donc c'est une emphase assez simple, et elle n'est pas forcément passionnante, la dimension rhétorique. Mais ce qui est peut-être plus intéressant du point de vue d'une sémiotique, c'est que il semble bien y avoir quelque chose comme une nécessité intrinsèque d'organisation qui ne peut pas à proprement parler se déduire ou pas se déduire directement en tout cas de l'organisation physiologique ou de l'organisation chimique, et qui semble bien ressembler à disons quelque chose comme une mise en discours mais pas une mise en discours postérieure à la sensation, mais à même, pour ainsi dire, la sensation. C'est-à-dire que la sensation en tant que telle, déjà, comme simple fait, même si on ne la dit pas par la suite, peut être considérée, en effet, comme quelque chose, comme une énonciation, comme un acte qui suit un certain rituel et qui produit par la même du sens.
Mesdames, messieurs, chers compagnons, vous êtes priés de vous lever pour la prière du vigneron.
Ô mon Dieu, toi qui protèges durant l'hiver la sève descendue des sarments, toi qui fais sortir les premiers bolons, toi qui ranimes la vie qui semblait morte, toi qui fais croître les feuilles, les tiges et les vrilles, toi qui épanouis les fleurs discrètes au parfum délicat, toi qui gonfles les grappes et fais traluire les raisins, toi qui dors les pampres et mûris les fruits, toi qui nous donnes le vin, liqueur de ton église, esprit de nos cotères, âme de nos ressats, bénis le dur labeur de nos vignolans. Protège nos vignes du gel, de la grêle, des vers et des maladies. Fais briller ton soleil que double le miroir du lac. Donne à nos crus la douceur, le bouquet, le fruité, le velouté des vins des grandes années. Préside, ô mon Dieu, à cette réunion. Rends nos esprits subtils, nos âmes fortes, nos cœurs reconnaissants.
On évoquait donc ces trois moments de la structure narrative, l'attaque, l'évolution et la finale. Alors, pour ce qui concerne l'attaque, qui est le moment en quelque sorte de la promesse, un moment un peu d'hypothèse qu'on formule à l'égard de la suite, vous dites donc que c'est un moment indiciel.
Alors, c'est un moment indiciel parce que c'est un moment où l'on pose ou fond une hypothèse. Quelque chose se manifeste à titre d'indice d'une réalité. renvoie à quelque chose. On fait l'hypothèse qu'il y a quelque chose. Et c'est donc un moment à la fois d'interrogation et un moment de... C'est le premier moment de rencontre. C'est la raison pour laquelle le vocabulaire est souvent un vocabulaire de la négociation. Par exemple, on dit « l'attaque est franche », bon, ce qui est une qualité psychologique, mais c'est surtout une qualité qui définit bien le fait que deux choses se rencontrent et en l'espèce sans problème, par exemple, sans perversité spéciale, etc.
Il peut y avoir l'idée d'une résistance aussi.
Il peut y avoir aussi l'idée d'une résistance, mais la résistance, elle... c'est toujours un rapport, la résistance, mais c'est déjà quelque chose que l'on rencontre plutôt dans une étape de constitution, c'est-à-dire quand on commence à avoir affaire à des qualités sensibles comme l'amertume, l'astringence, etc. Donc on voit bien d'ailleurs pourquoi elles sont une résistance, puisque elles impliquent une sorte de résistance, puisque notre organisme, en quelque sorte, y résiste, se crispe sur elles, etc., etc. Donc il y a effectivement de ce point de vue-là tout un vocabulaire qui est à la fois le vocabulaire de l'intersubjectivité et, comme toujours dans ces cas-là, qui produit assez facilement un effet de narration. Tout simplement, quelque chose se passe, quelque chose est raconté. Simplement, cette narration est, pour ainsi dire, sous le contrôle d'une forme plus générale qu'elle. C'est-à-dire que la narration n'est pas absolument nécessaire pour décrire le fait, alors que les trois temps semblent absolument nécessaires. Même si on ne les décrit pas toujours d'une façon aussi rigide que on pourrait le penser. Donc il y a une sorte de présélection, si vous voulez, assez massive, de grandes saveurs qui servent de repère ensuite à des constructions qui peuvent être d'une subtilité aussi grande que l'on veut. D'autant plus que ce qui est frappant quand on regarde un tout petit peu ce vocabulaire, qui est assez riche, mais il a une particularité, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait préjuger, si vous voulez, il n'a absolument rien de spécifique. C'est-à-dire que le vocabulaire du goût en général est utilisé pour le vin, mais il n'y a rien dans ce vocabulaire, sauf peut-être des termes comme désignant évidemment l'alcool ou des choses comme ça, et encore il y en a très peu.
Vineux ou alcooleux.
Vineux, alcooleux, bon, qui peuvent se référer spécifiquement au vin. Autrement, ce sont des termes extrêmement généraux qui peuvent convenir à beaucoup de phénomènes gustatifs.
Qui appartiennent à différents vocabulaires, même celui de la construction ou du bâtiment, par exemple, charpenté, et qui organisent une véritable synesthésie pratique, puisque sont convoqués évidemment un vocabulaire qui est lié à la couleur, les notes, à certains éléments végétaux, les bois, les fougères, enfin, et qui donc organisent de manière synesthésique une véritable confusion des sens.
Alors, la question de la synesthésie, effectivement, ou si l'on veut de la polysensorialité, enfin comme beaucoup de sémioticiens disent, c'est en effet que nous avons l'impression au départ qu'il y a par exemple un lexique qui serait plus propre aux couleurs, et puis un lexique qui serait plus le propre de l'odorat, etc., ce qui est relativement vrai. Mais que très 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 relativement, et on le voit bien dans la dégustation du vin, le lexique est pris à peu près dans tous les registres possibles, y compris les registres les plus qui nous semblent les plus métaphoriques ou les plus imagés, si l'on veut, qui en réalité ne sont pas véritablement métaphoriques et imagés, mais qui simplement repose sur le fait qu'il y a un déficit de lexique propre. C'est pas qu'il y a métaphore, c'est qu'il n'y a pas de propre, il n'y a pas de sens propre en quelque sorte.
Vous allez me décrire ce vin.
Allez,
la couleur. On attaque depuis le début.
Il peut avoir largement vieillir.
Non, je ne vous demande pas votre état d'âme. Je demande la couleur.
La couleur.
Il est
d'un rubis sombre, grenat, disons.
Oui, là
grenat.
Grenat. Bon, allez, je
l'ai. Donc, il y a un équilibre qui est superbe, là, au niveau de l'arôme, pareil.
Alors, si je peux me permettre, vous commencez toujours par la fin.
Oui.
Je vous demande le nez, et après, vous ferez
la critique, le bilan de l'analyse. Alors, on repart à zéro.
Moi, je prends.
Qu'est-ce que vous sentez là-dedans? Est-ce que d'abord, elle se tenait puissant ou se tenait.
Il est puissant, oui.
Puissant. C'est déjà très évolué. Enfin, très expressif. Alors, que sentez-vous là-dedans? Et puis, monsieur a senti quelque chose au fond, là. Le café.
Ah oui, c'est vrai.
Revenons un peu à cette sémantique des différents registres de saveurs, acide, sucré, amer. À chaque saveur correspond un certain nombre de mots, un certain nombre de qualités qui sont immédiatement perceptibles. C'est là où le sémioticien arrive à distinguer les significations. À l'acide, par exemple, correspondent des notions d'intensité, de tonicité, de vitesse. Au sucré, c'est le contraire. C'est plutôt la lenteur qui correspond, la douceur. À l'amertume, la rudesse, l'aspérité.
D'abord, il y a ces grands axes dont on a vu qu'ils étaient... au fond, un moyen en vue d'une fin, c'est-à-dire un référentiel à partir duquel on peut se repérer. Maintenant, autour de ça est construit sont construits tout un tas de discours, et en particulier toute une terminologie. Et cette terminologie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, au fond, elle établit une forme générale de médiation. Et cette forme, eh bien, décrit ce que, au fond, les traités de dégustation appellent l'équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est une sorte de compromis général plus ou moins satisfaisant, c'est-à-dire à valeur esthétique, entre différentes saveurs, dont aucune n'est censée effacer l'autre, mais n'est censée non plus s'autonomiser complètement par rapport à elle. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a tout un spectre de terminologie qui sert à décrire cet équilibre. Maintenant, quelque chose comme une douceur intense, par exemple. Voilà quelque chose qui est intéressant, qu'on peut rencontrer. Il y a des douceurs intenses. On peut parler d'une douceur intense si l'on parle de certains vins blancs, comme les Sauternes, par exemple, qui sont à la fois sucrés, doux et intenses. Bon. Tout ça, c'est quelque chose que l'on pourrait décrire beaucoup plus abondamment. C'est-à-dire, on pourrait décrire, comme je le fais en partie, ce que veut dire ici douceur, ce que veut dire intensité, et ce que leur jonction va impliquer du point de vue du rapport gustatif. Voyez, ce qui fait que sous ce vocabulaire qui paraît quelque chose comme une sorte de nomenclature, il y a en réalité des discours beaucoup plus complexes que l'on peut décortiquer si vous voulez analyser. Enfin, bon. Voilà, c'est ça l'enjeu, si vous voulez. Donc, ce que l'on fait en général dans les traités de dégustation, c'est proposer une sorte de lexique. Mais le lexique lui-même n'est rien sans, au fond, le discours qui est sous-jacent, qui l'utilise et qui en déploie certaines virtualités et pas d'autres, etc. C'est-à-dire qu'au fond, c'est que dans la réalisation discursive que ce lexique va prendre véritablement son sens. Ce qui fait qu'il ne faut pas non plus prendre trop au sérieux, si vous voulez, les classifications lexicales qui sont jamais qu'une façon pour l'analyste de se repérer lui-même cette fois-ci et pas simplement ce qu'il goûte.
Alors, est-ce que le vocabulaire de la note finale ressemble à celui de l'attaque ou du moment de l'évolution et du développement? Non, bien sûr.
Alors, le vocabulaire de la note finale, il est assez intéressant parce que d'abord, il est évidemment donné par une durée. Il y a la longueur.
C'est la durée pure, presque.
Il y a une sorte de quelque chose qui peut être interminable. Bon, en général, on dit que les cognacs sont particulièrement longs, des queues extrêmement longues. Donc, je reviens quand même sur cette idée que s'il y a une finale, c'est pas simplement parce qu'un processus doit nécessairement commencer, durer et terminer. C'est aussi parce qu'il a une sorte de forme. Hein. Il a une morphologie et cette morphologie, on peut la dessiner facilement. Et on a des fins de ce point de vue qui sont plus ou moins longues, plus ou moins. Et aussi qui prennent des formes diverses, par exemple quelque chose qui est assez intéressant, c'est le sableux, par exemple, c'est-à-dire des fins sableuses, c'est-à-dire quelque chose qui se délite un petit peu, qui perd sa texture, qui devient du grain, etc.
Et alors, quel moment vous préférez dans ces différentes étapes de la dégustation?
Je crois pas que... Moi, j'aime bien la dégustation, disons la dégustation du vin, bien entendu, pris en elle-même. On pourrait dire la dégustation radicale, si vous voulez, par opposition à une dégustation littéraire. Mais
ou sémiotique.
Ou sémiotique. Mais je crois que les deux vont ensemble, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus bien déguster, sans, ce qui est frappant d'ailleurs chez les dégustateurs, sans acquérir un langage subtil. Et cette subtilité, c'est une élaboration qui demande les deux, qui demande le discours et le goût.
La sémiotique dans la cuisine du sens. Aujourd'hui, le temps des libations avec Jean-François Bordron, professeur à l'Université de Paris 3 et co-auteur de Questions de sémiotique aux Presses universitaires de France. Document INA, Martine Auger. Les chemins de la connaissance, Jean-François Néolier, Jean-Michel Coqui, Claude Giovanetti, Jacques Munier. Documentation et bibliographie sont à votre disposition sur le site franceculture.com.